Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Solène Robin.
Éclairage s'intéresse aujourd'hui à l'apprentissage du calcul à l'école primaire. Le calcul vient du latin calculus, c'est-à-dire les cailloux. Alors, pourquoi ce mot ? Eh bien, il est dit que les bergers avaient coutume de comptabiliser leurs moutons en déposant des cailloux dans un pot à l'entrée et à la sortie de la bergerie. Indispensable dans la vie de tous les jours, le calcul est donc, à l'image de la lecture, enseigné dès le plus jeune âge. Mais, fonction des époques, les méthodes ont évolué. Dans le bon sens, pas sûr, car qui n'a jamais entendu enseignants, parents s'exprimer, dépités sur ce sujet ? Nos enfants ne sauraient plus calculer, les adultes non plus d'ailleurs. Même si on ne peut évidemment pas être aussi radical, il semble que la situation n'ait jamais été aussi préoccupante. Beaucoup d'élèves entrent au collège sans avoir compris, par exemple, la règle de 3, pourtant base de tous les calculs de proportionnalité. La plupart ne maîtrisent pas les fameuses tables de multiplication, et de manière plus générale, les enfants manquent d'automatisme, sans compter, souvent, un désamour pour les mathématiques. Pourtant, l'acquisition de ces automatismes de calcul est indispensable. Le calcul est intrinsèquement lié à toutes les autres disciplines. La géographie recourt pour le calcul des distances, des populations, la musique également, pour battre la mesure, connaître le rythme, le sport également, pour établir les performances. Point de géométrie non plus sans calcul. L'enseignement actuel du calcul au primaire, voire même dès la fin de la maternelle, doit être plus efficace, puisque c'est dans ces petites classes que sont acquis les mécanismes de base qui conditionneront ensuite l'apprentissage de notions plus complexes. C'est pour entamer une réflexion sur la refonte de cet enseignement au primaire que le ministre de l'Éducation Gilles de Robien a demandé en décembre 2006 à l'Académie des sciences de formuler un avis sur la question dans le cadre d'un grand chantier consacré au calcul qui suit celui entamé dernièrement sur la lecture. Un groupe de réflexion a donc travaillé au sein de l'Académie sur cette question, rendu son avis le 9 janvier. Avis rendu public par la suite lors de la séance de l'Académie du 23 janvier. Alors un groupe de travail composé de Stanislas Dehaene, Jean-Pierre de Mailly, Jean-Pierre Kahn, Yves Meyer, Jean-Christophe Yocos et Pierre Léna. Nous recevons aujourd'hui Pierre Léna qui a accepté de venir évoquer le sujet avec nous. Pierre Léna, bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Canal Académie pour nous parler de ce sujet brûlant et qui semble passionner les foules. Alors vous êtes depuis 2005 délégué à l'éducation et à la formation au sein de l'Académie. Vous avez également participé à la mise en place de la main à la pâte avec M. Charpak et M. Quéré, qui prônent le développement de l'enseignement scientifique. Quel regard portez-vous vous-même sur l'enseignement de calcul tel qu'il existe aujourd'hui ?
La question qui nous a été posée est une question importante. On ne peut pas dissocier l'enseignement du calcul de l'enseignement scientifique, ni même de l'enseignement des autres matières, le français, l'histoire, la géographie. C'est ce que, dans notre avis, nous avons voulu mettre en avant en disant que le calcul n'est pas une île au milieu d'un océan, mais est une forme d'apprentissage essentielle pour les enfants, mais qui se lie aux autres matières. C'est quelque chose que nous avions déjà constaté dans la main à la pâte à l'école primaire où, pour les sciences d'observation, nous avions fait un lien très fort entre ces sciences et l'apprentissage du langage, du français en l'occurrence. C'est une des forces de l'école primaire puisque le professeur des écoles, l'instituteur, y est polyvalent. Il enseigne toutes les disciplines, immense différence avec le collège qui suivra. Et donc, il joue sur le clavier de ces disciplines 25 heures par semaine, donc avec une présence très forte auprès des enfants qu'il connaît bien, en veillant à ce qu'il y ait une cohérence entre les apprentissages de chacune d'entre elles, avec un objectif qui est la construction de la personnalité de l'enfant et de ses développement de ses aptitudes. Donc, l'état de l'enseignement du calcul à l'école primaire fait partie d'un ensemble. Et quand nous avons dû répondre à la demande de Gilles de Robien, le ministre, pour lui rendre rapidement un avis, nous n'avons pas eu le temps de faire une enquête approfondie sur l'état de l'enseignement du calcul. Nous sommes partis donc d'un constat plus général, si vous voulez, qui est que les performances des élèves en collège et au lycée en mathématiques pour la France ne sont pas mauvaises. Hein, nous sommes au-delà de la moyenne internationale, mais que la capacité de manipuler rapidement et bien l'étape d'opération, la multiplication, le calcul mental, l'aisance avec le calcul approché, nous allons y revenir sans doute, chez les jeunes Français était insuffisant et qu'on pouvait certainement faire beaucoup mieux et que cette insuffisance était dommageable parce que le calcul ne sert pas seulement aux étudiants qui font des études scientifiques ou technologiques supérieures, mais aussi à tout un chacun dans la vie quotidienne. Et que je suis toujours attristé de voir des jeunes qui, pour faire rendre la monnaie, quand il faut faire 25 moins 8, eh ben, prennent une calculette. Oui.
Justement, la question de la calculette, elle a été posée.
C'est une des choses que nous avons abordées, mais peut-être pas d'entrée de jeu, parce qu'elle n'est pas centrale dans le problème.
D'accord, très bien. Et justement, dans cet avis, vous avez évoqué le fait que les enfants ont une intuition mathématique préexistante. Ils auraient même la notion du nombre jusqu'à 3 avant même que le calcul leur soit enseigné. Mais comment inculquer des automatismes sans induire un sentiment de contrainte chez les enfants?
Alors là, vous évoquez beaucoup de questions que je vais prendre dans un ordre un peu différent de la façon dont vous les posez. Hein. La première idée, c'est qu'est-ce qui préexiste chez l'enfant? Bon, là, vous l'avez dit en premier. Hein. Et là, nous nous sommes appuyés sur des travaux de sciences cognitives faits par un de nos confrères éminents, professeur au Collège de France, Stanislas Dehaene, qui étudie de manière très approfondie, au fond, les structures mentales, cérébrales, qui existent chez le tout petit enfant et qui progressivement vont rendre l'être humain capable de comprendre, apprendre, raisonner. J'ai lu dans la presse un certain nombre de commentaires que je trouve excessifs, essentiellement parce qu'ils manifestent une incompréhension de ce que nous avons voulu faire là. Il n'est pas question, et Stanislas Dehaene lui-même est d'une grande, très grande prudence sur ce sujet, de dire « la science montre que le cerveau fonctionne comme ci et comme ça, donc un instituteur à 9h45 le matin doit faire telle et telle chose dans sa classe ». Ce serait prêter à la recherche des conclusions qui vont bien au-delà de ce qu'elle est capable de dire et imposer des arguments d'autorité qui n'ont pas lieu d'être. Néanmoins, il est tout à fait important que le corps enseignant, le public, comprenne que nos connaissances aujourd'hui sur le cerveau éclairent sa pratique. Hein. Pour nous placer un siècle plus tôt du temps de Pasteur, on a dit quelquefois « Ah, mais la nouvelle science biologique va détruire l'art du médecin qui, dans la relation médecin-malade, est fondamentale pour la guérison du patient. » Pas du tout. Il vaut mieux savoir que pas savoir. Donc, savoir comment fonctionne le cerveau ne supprime en rien la qualité de la relation entre l'enseignant et l'élève. Elle l'éclaire, simplement. Il vaut mieux savoir que c'est parce que nous avons une mémoire de travail et une mémoire à long terme dans l'organisation de nos neurones que nous avons beaucoup de mal à retenir plus de 3 numéros de téléphone dans l'instant. Et que néanmoins, nous pouvons apprendre une poésie très longue, beaucoup plus longue que ces 3 numéros de téléphone dans la durée. C'est parce qu'il y a deux mécanismes complètement différents dans notre cerveau qui travaille. Donc nous avons voulu souligner ce que l'enfant avait comme prédisposition naturelle au calcul, comme intérêt spontané au nombre, qui lui viennent de la longue histoire de l'évolution, et que là-dessus, si on le connaît, eh bien l'enseignant est mieux outillé pour développer ce que va être l'enseignement du calcul. Voilà. Donc là-dessus, je souhaitais préciser ce point. Alors, vous évoquiez ensuite la question des automatismes. Bon, moi, je voudrais faire remarquer que le rapport, l'avis que nous avons rendu, est extrêmement équilibré entre automatisme d'un côté, à acquérir, et compréhension de ce que l'on fait, sens de l'automatisme de l'autre. Dire 4 fois 7 égale 28 est une chose, comprendre ce que l'on fait, ce que l'on veut exprimer par cette phrase, en est une autre. Et des travaux que citait un des membres de la commission montrent que si on ne vise que les automatismes à très court terme, c'est-à-dire rendre les enfants immédiatement performants, par exemple sur la multiplication, sans qu'ils aient rien compris au sens, eh bien, à court terme, ils seront, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois, ils seront évidemment plus performants que ceux qui ont peut-être davantage peiné à comprendre le sens, mais à long terme, ce sont les seconds qui les dépasseront. Et on comprend bien pourquoi.
Alors là, il s'agit d'associer le nombre aux ordres de grandeur et à ce à quoi ils correspondent.
Les ordres de grandeur, c'est encore autre chose. C'est les formes de calcul. Non, là, il s'agit de dire que qu'on comprend, par exemple, 3 fois 4 pommes, 12 pommes, eh bien, j'ai compris que la multiplication était un moyen plus puissant que de faire 3 additions de suite pour obtenir le résultat. Donc la multiplication fait autre chose, et quand on a compris que ce petit signe X que l'on met entre deux nombres signifie cette autre chose, eh bien on est plus performant. Et le rapport insiste sur un point que je voudrais reprendre ici, qui est que apprendre l'étape de multiplication demande aux enfants un effort important, sur la base de cette compréhension intuitive qu'ils ont des nombres, un effort mental, d'attention, de mémoire important. Donc c'est difficile, c'est exigeant, mais une fois que c'est fait, l'automatisme ainsi construit, et je répète, il est plus résistant à l'usage et plus efficace dans la durée s'il est accompagné du sens de l'opération. Et une fois acquis, il libère des capacités mentales pour autre chose. C'est-à-dire, au lieu de se gratter la tête pour dire 9 fois 7, mais combien ça fait? Ça doit faire 8 fois 7, puis il faut encore que j'ajoute 1 fois 7. Enfin, vous voyez, ce genre de... Eh bien, si on sait la table de multiplication, 9 fois 7, 63, l'esprit est libre pour penser autre chose. Et donc, l'automatisme bien acquis, libère de la capacité intellectuelle pour les étapes suivantes.
D'accord. Et justement, vous évoquiez tout à l'heure les distinctions entre le calcul mental, calcul posé et ainsi calcul approché instrumenté. Ils s'avèrent donc indissociables et tous présentant une importance au niveau de l'apprentissage général.
C'est ce que nous avons écrit et je relis la phrase de Lavie. Il existe plusieurs approches de la capacité en calcul, ce que les parents et bien entendu les maîtres recherchent, toutes pertinentes, nécessaire et complémentaire. Et donc dire la priorité des priorités, c'est le calcul mental, en omettant les autres, c'est non seulement énoncer un objectif qui ne nous paraît pas bien raisonnable, mais c'est aussi occulter le fait que ce calcul mental ne peut se développer que s'il s'appuie sur, par exemple, une compréhension des ordres de grandeur. Si je dis 5 fois 7, 200, eh bien, je suis sûr que je fais une grosse faute, parce que 200, c'est beaucoup plus grand que ce que je peux attendre du résultat de cette opération. Et donc, je dois avoir un petit clignotant qui s'allume. Et de même, si je dis que le produit de deux nombres impairs et je donne une réponse à nombre pair, tout de suite, je dois avoir quelque chose qui me dit non, ça ne peut pas être ça. Ça, c'est un raisonnement approché, qui contourne, de même, tout ce qui est auxiliaire de l'apprentissage de la table de multiplication, la multiplication par 5 doit se terminer par un 0 ou un 5, etc. Des repères qui ont à voir avec le sens de l'opération. Vous voyez ?
Mais alors, sur le calcul mental, parmi les aspirations actuelles du gouvernement, on évoque le fait de consacrer 15 à 20 minutes par jour au calcul mental. Vous en pensez quoi ?
Oh, mais ça, c'est pas plus mal, si vous voulez, qu'il y ait une règle qui guide les enseignants en leur disant, ben voilà, il faut pas que vous oubliez dans la multitude des tâches que vous avez. De même qu'on dit qu'il faut tant de temps de lecture, il faut que les enfants lisent tous les jours, et c'est très important quand la télévision a ce pouvoir d'attraction aussi fort, mais qu'ils apprennent à jouer avec les nombres. Nous avons souligné dans la vie l'importance du jeu mathématique. Je n'aime pas le mot ludique, qui a l'air de mettre l'apprentissage dans une catégorie distrayante. Mais le jeu a une autre connotation. Le jeu, c'est au sens du terme du menuisier ou de l'ajusteur. Vous voyez, c'est ce qui a du jeu, c'est ce qui peut laisser de la liberté. Et le jeu chez l'enfant, c'est une façon pour lui de découvrir un espace dans lequel il peut se déployer avec une certaine liberté et avec plaisir. Nous avons beaucoup insisté sur le plaisir du calcul qu'on connaît bien chez les enfants.
C'est-à-dire que l'enfant, par le calcul, accède au jeu, mais aussi par le jeu, trouve l'utilité du calcul.
Vous avez parfaitement résumé ce que nous voulions dire.
D'accord.
Merci.
Alors, grande nouveauté de cet avis qui a beaucoup fait parler les médias, vous recommandez l'apprentissage simultané des quatre opérations.
Voilà, alors là je crois que, et je le dis volontiers ici, que notre avis a été formulé d'une manière trop ramassée parce que il a été mal compris. Et j'espère qu'il ne sera pas mal exploité, et je compte sur la sagesse des instances de l'éducation nationale pour réfléchir comme nous le conseillons d'ailleurs dans la vie, avant de faire des préconisations trop rapides. En effet, qu'est-ce que nous entendons par apprentissage simultané et dès le début de l'école primaire
Vous évoquez même la fin de la maternelle.
Même la fin de la maternelle. Alors, pour la fin de la maternelle, notre prudence est très explicite, puisque nous prenons un exemple, la division de 8 bonbons entre 2 enfants. Et ça, c'est clair qu'à la fin de la maternelle, les enfants peuvent le faire, c'est-à-dire donner un bon résultat. Et s'il y a 9 bonbons, ils diront même il en reste un. Donc, ils ont compris qu'il y avait un processus. Et faut-il ou non l'appeler division, c'est-à-dire lui donner le nom? Peut-être pas tout de suite, mais peut-être la prise de conscience que ce processus-là, il y a un reste, on l'appellera reste plus tard, n'est pas la même chose que d'additionner 2 bonbons et 3 bonbons.
Donc les enfants peuvent comprendre très jeunes
qu'il y a différentes opérations. Mais ils comprennent parfaitement que soustraire, ce n'est pas la même chose qu'additionner.
Alors, j'ai lu ça et là, je ne connais pas la véracité de cette information, mais que on pensait au primaire modifier les termes d'additionner et de soustraire pour avancer et reculer.
Alors, écoutez, plus on. Ça fait souvent très moderne de changer le nom des choses. On l'a fait avec la grammaire. Où on a affublé le complément d'objet ou le sujet de vocables totalement incompréhensibles, mais qui ont l'intérêt pour certains de faire savant. Mais une addition, c'est une addition. Une soustraction, c'est une soustraction. D'ailleurs, avancer et reculer, ça ne me paraît pas très raisonnable. Je n'ai pas participé à ces interrogations, Carrel, je ne sais pas le mot. Mais c'est une représentation concrète, soit, mais qui ne s'applique absolument pas dans certaines utilisations de l'addition. Ça va si on joue au Monopoly ou au petit chevaux.
Il s'agit de gagner, oui.
Pour gagner, on avance, on recule de 3 ou 2. Mais est-ce que c'est pertinent quand j'additionne 3 pommes et 2 pommes sur une table? Qu'est-ce qui avance, qu'est-ce qui recule là-dedans? Non, on a des termes que tout le monde comprend. Ce n'est pas la peine de faire savant en les changeant. À mon avis.
Vous parlez donc l'introduction des 4 opérations très tôt. Par quels moyens, justement, les enseignants peuvent enseigner ces opérations simultanément, mais surtout, quels moyens doivent-ils avoir pour enseigner le calcul de manière probante?
Alors, entendons-nous sur ce point qui est vraiment important. 4 opérations, d'abord sur des très petits nombres.
Bien sûr.
Ensuite, de façon mentale. Le calcul posé, par exemple, poser une division en CP avec notre façon de la poser ne serait totalement déraisonnable. Mais comprendre en CP que ce que l'on, ou peut-être en CE1, que ce que l'on lisait en maternelle, eh bien, ça s'appelle une division et que l'autre s'appelle une addition, ça c'est raisonnable. C'est-à-dire faire ce lien entre la langue et puis ce que l'on fait en sciences, ici en mathématiques. Alors, pour ce qui concerne les moyens des enseignants, mais les enseignants sont... Enfin, moi, j'ai 10 ans maintenant d'expérience de la main à la pâte et de relations avec le corps des professeurs des écoles, qu'on appelait instituteurs autrefois. Quel beau nom, quel dommage qu'on l'ait abandonné. Je trouve que c'est un ensemble de femmes, surtout, et d'hommes extraordinaires, de compétences professionnelles, de capacité de relation, d'intérêt pour l'enfant, ce qui est déterminant à cet âge. Et je suis certain qu'ils sont tout à fait capables de mettre en œuvre un enseignement du calcul. Qu'on attire leur attention, c'est ce que je crois le ministre a voulu, sur l'importance du calcul mental, bon, ce n'est pas illégitime. Qu'on leur fasse confiance en s'appuyant sur les travaux. Alors, je devrais en particulier, je voudrais citer ici la commission pour l'enseignement des mathématiques, qui s'appelle la CREM, oui. Et les travaux de personnes comme Michel Artigue ou encore de Guy Broussiau, qui sont bien connus des enseignants, qui sont disponibles sur Internet, notamment sur le site EducMath de l'Institut National de Recherche Pédagogique, auquel collaborent des membres de l'Académie d'ailleurs, et que les enseignants peuvent trouver là tous les éléments de réflexion fine, didactique, pédagogique, scientifique sur l'enseignement. Mais je ne crois pas... Nous avons insisté dans la vie néanmoins sur la formation des maîtres.
Voilà, c'est ce que je voulais aborder.
C'est peut-être ça que vous aviez en tête.
Aussi, oui. Oui, parce qu'un enseignant bien rodé qui a trouvé ses
du
marques...
métier,
voilà.
Oui.
Mais on déplore souvent, on reproche aux IUFM de ne pas être suffisamment formés à la pédagogie des enseignants.
Alors, c'est une grande question. L'Académie des sciences s'est prononcée déjà 3 reprises sur la formation initiale des enseignants, donc celle des IUFM, et sur leur formation continue au cours de leur carrière. En 2004, par un avis public, en 2005, par un complément sur la formation des maîtres, et plus récemment, par des efforts pour que le cahier des charges des IUFM, qui a été publié le 28 décembre dernier, contiennent des éléments solides sur la formation scientifique des maîtres. Notre point est que, de toute façon, quels que soient les efforts que l'on fasse, dans la configuration actuelle des IUFM, dont la première année se passe essentiellement à préparer un concours pour les étudiants, la deuxième année est trop courte pour doter ces jeunes filles et jeunes gens de ce dont ils auront besoin par la suite. Donc, c'est la formation continuée qui est l'effort essentiel. Ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas améliorer ce qui se fait en IUFM, bien sûr, et nous essayons d'y œuvrer. Nous recevions hier à l'Académie des sciences une 20aine de délégués d'IUFM sur l'enseignement des sciences. Nous avons passé la journée à travailler avec eux. Donc, nous nous en préoccupons. Mais c'est la formation continuée qui est essentielle. C'est la qualité et le nombre de stages de formation qui va permettre à des jeunes qui, tout d'un coup, débarquent dans des classes avec souvent des problèmes pas faciles d'intégration sociale, de santé, de pauvreté aussi, il faut bien le dire, de faire progressivement face à l'enseignement de chacune des disciplines, le calcul et les mathématiques, les sciences. Or, aujourd'hui, les stages de formation d'enseignants en école primaire sont pratiquement réduits à la portion congrue. C'est un pot de chagrin qui ne cesse de se réduire d'année en année. Et on peut faire toutes les circulaires du monde sur... l'enseignement du calcul ou des mathématiques, si on ne met pas en place des outils... Nous avons près de 300 000 enseignants d'école en France. Donc, c'est beaucoup de monde à accompagner. Et donc, il faut des dispositifs.
Mais justement, c'est assez paradoxal. Si l'enseignement scientifique est de plus en plus réduit, paradoxalement, on met en exergue et on valorise beaucoup en France les filières scientifiques. Alors,
je n'ai pas dit que l'enseignement scientifique était de plus en plus réduit. Hein. Au contraire, je dirais, à l'école primaire, lire, écrire, compter est l'impératif régulièrement donné aux enseignants. aux dépens même des autres disciplines scientifiques. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'Académie des sciences met en avant très fortement, nous l'avons répété encore lors des prix de la main à la pâte il y a quelques semaines, lire, écrire, compter, raisonner. Donc un quatrième objectif qui nous paraît essentiel à développer à l'école primaire. Mais ce qui est en jeu dans votre question, ce n'est pas l'enseignement scientifique dans la classe, en tout cas s'agissant des mathématiques à l'école primaire, c'est la formation des maîtres, c'est-à-dire les rendre mieux capables, mieux outillés de mener un enseignement de qualité. C'est là-dessus que dans la vie nous insistons.
Et justement, il y a une circulaire qui va être publiée dans quelques semaines, inspirée donc de l'avis que vous avez formulé. Vous insistez beaucoup sur la mise en place d'expérimentations sur le terrain plutôt que de changer les choses de manière radicale.
C'est exact. Et nous aurions dû dire, et je profite de l'occasion que vous me donnez pour le dire, puisque nous ne l'avons pas écrit, qu'il fallait aussi avoir un œil très attentif sur tout ce qui est acquis déjà autour des réflexions sur l'enseignement des mathématiques. Il existe en France un réseau d'IREM. IREM veut dire Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, qui sont des structures au sein des universités, mais qui associent des praticiens, donc des professeurs du second et du premier degré, sur les meilleures manières d'enseigner les mathématiques. Calcul mental, calcul approché, calcul avec la calculatrice, ou calcul écrit et posé. Donc il y a un grand corpus de réflexion qui existe déjà. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avancer. Mais si on veut changer, il est préférable, et c'est tout, alors je parle là à titre plus personnel de la main à la pâte, ce que nous avons appris depuis 10 ans, c'est que le changement, on le gagne lorsque l'on a construit à petite échelle, c'est-à-dire à échelle gérable, hein, des expérimentations excellentes. Et quand on a démontré à petite échelle l'excellence d'une pédagogie, alors, elle peut se répandre de façon assez spontanée, parce que personne n'est stupide. Si on dit ça marche bien, ben on a envie de le faire.
Mais justement, sur ces questions de pédagogie, je voulais revenir sur l'usage à l'école primaire de la calculette, puisque ça suscite quelques polémiques ou désaccords. Les uns prônent l'utilisation très tôt de la calculette et considèrent que ça ne nuit pas à l'apprentissage du calcul. D'autres disent qu'on peut attendre d'avoir atteint des notions plus complexes de mathématiques pour l'introduire. Vous en pensez quoi ?
Bon, nous sommes partis d'un constat. Hein. C'est qu'on peut toujours interdire dans notre société où les enfants dès le CM1 ou le CM2 ont des téléphones portables équipés de calculatrices, hein, où on peut acheter au supermarché une calculatrice pour 5 euros. Hein, interdire ne servirait à rien. Les enfants ont des calculettes, ils les manipulent, ils jouent avec les nombres qu'ils affichent, ils constatent des choses. Ils sont très astucieux, les enfants. Hein. Ils vont constater que quand on multiplie par 5, ça finit toujours par un 0 ou par un 5. Quand on multiplie par 2, c'est toujours un nombre pair. Ils vont jouer avec cet objet. Hein. Et donc, dire on doit faire comme si ça n'existait pas à l'école ne nous a pas semblé raisonnable. Ce qui est important, c'est de ne pas aller dans la voie de la facilité la plus grande, qui consisterait à dire: à quoi bon apprendre une table de multiplication puisque en 2 clics, j'ai le résultat. Ça priverait l'exercice, la gymnastique mentale et la familiarisation avec les nombres qui est si essentielle pour pouvoir ensuite les reconnaître dans la vie courante.
Oui, mais ça, c'est une notion que les enfants peuvent avoir d'eux-mêmes, se dire pourquoi apprendrais-je l'étape de multiplication alors que j'ai la calculatrice.
Voilà, justement, c'est là où le maître doit intervenir et dire: eh bien maintenant, on n'utilise pas de calculette, on apprend. Et les enfants peuvent dire ce que vous venez de dire, pourquoi apprendre ? Mais le maître peut expliquer pourquoi. Parce que quand tu fais ça, tu as créé dans ta tête un outil qui va te servir toute ta vie et sur lequel tu peux construire ensuite au collège beaucoup de choses sur le sens des nombres, sur l'utilisation des nombres. Et il y a tellement de merveilleuses histoires dans l'histoire des nombres entiers, des fractions chez les Babyloniens, les Égyptiens, les Grecs, que c'est très, très facile de passionner les enfants avec ça. Voyez. Donc là, il y a une tentative de facilité contre laquelle il faut lutter. Et c'est ce que nous disons dans la vie. Ne pas nier les calculettes.
Alors quand certains disent « oui, mais les calculs ardus trigonométriques étaient certes très compliqués à saisir, mais ils nous permettaient d'avoir une gymnastique intellectuelle qui n'existe plus aujourd'hui. »
Vous savez, dans toute chose, il faut garder un peu de bon sens et d'équilibre. C'est-à-dire, quand on a un outil... Je veux dire, si je dois aller traverser la Seine qui est devant nous, je ne vais pas prendre ma voiture. Mais si je dois faire 200 ou 300 kilomètres, je vais plutôt prendre ma voiture que partir à pied comme au XVIIe siècle ou au Moyen-Âge.
Bon. Oui, c'est une question d'évolution simplement.
Voilà, alors il faut prendre en compte et l'existence de ces calculettes permettra plus tard au collège de faire des simulations, de faire, quand on a fait une expérience, d'avoir très rapidement un résultat ou de prévoir le résultat de l'expérience. Donc c'est une très bonne chose de disposer de calculatrices.
Et le fait que les enfants puissent maîtriser les chiffres décimaux et les fractions, ou commencer à les maîtriser à l'issue de l'école primaire, c'est un objectif largement accessible.
Ça nous paraît raisonnable. Hein. Alors, il ne faut pas oublier dans les comparaisons avec le passé, hein, qui sont toujours le souhait de certains de revenir à l'école du passé, qui n'a pas du tout été la connotation de notre avis, hein, que le certificat d'études, la très grande majorité des enfants l'acquéraient en France à 14 ans en France, alors qu'aujourd'hui, l'école primaire se termine à 11 ans. Et l'évolution cognitive d'un enfant entre 11 et 14 ans, elle est considérable. Donc on ne peut pas comparer de manière exacte ce qui se passait à cette époque avec les performances des enfants d'aujourd'hui.
Alors quand on dit aujourd'hui que les enfants ne savent plus calculer, etc., c'est un petit peu exagéré.
J'ai commenté ce point tout à l'heure. Hein, le fait que, par exemple, les fractions, je parle plus des fractions que des nombres décimaux, mais le fait que beaucoup d'élèves quittent l'école primaire et même en début du collège ne sachent pas manipuler même des fractions élémentaires, hein, ne sachent pas additionner un quart et un cinquième, et n'est quand même pas satisfaisant. Hein. Ça fait partie justement de cette gymnastique de base pour lequel, cette fois-ci, la calculette n'aide pas. Parce que un quart plus un cinquième, si je dois commencer par diviser un par quatre, faire le report dans la mémoire, diviser un par cinq et puis faire l'addition, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de réduire au même dénominateur, y compris de tête, hein, et d'avoir le résultat.
Certes. Je tenais pour conclure à remettre en avant le fait que vous ayez donc souligné que l'apprentissage du calcul peut être un plaisir. Vous l'avez évoqué, tous les enfants peuvent calculer tant qu'il y a la volonté. Et
Voilà, alors ça c'est l'idée qu'il n'y a pas de boss des maths, en tout cas.
Sauf dyscalculie grave et d'origine génétique.
Des difficultés personnelles, médicales, auxquelles il faut être extrêmement attentif. Mais il y a une capacité innée, ça nous ramène au début de notre échange, une capacité innée à la fréquentation du nombre. Et elle est de plus heureuse, spontanément heureuse.
Donc tout le monde peut aimer les maths et le calcul.
Tout le monde peut aimer le calcul, c'est ce que nous avons écrit.
D'accord, oui. Très bien. Bon, Pierre Léna, je vous remercie beaucoup d'être venu dans nos studios. Je rappelle que le texte est disponible sur le site de l'Académie des sciences. Et puis la circulaire sera publiée donc très prochainement. Je vous remercie.